A really great opportunity for us to continue to work and to develop and to build on the closest alliance in the world between Canada and the United States.
Well, this will be the largest trade deal ever made, and it won't even be close. If you take a look at the numbers, second is so far away you don't even call it second.
Les voix du premier ministre Trudeau et du président Trump qui se sont rencontrés aujourd'hui.
Au bureau ovale, ce qui va capter l'attention des médias, c'est ce qu'on vient d'entendre. La rencontre entre M. Trudeau et M. Trump, qui, soit dit en passant, ne serait-ce que d'un point de vue strictement visuel, avait quelque chose de franchement amusant. Là, Trudeau avait l'air d'une brebis à côté de Godzilla. Là. Visuellement, c'était quelque chose à voir. Mais dans les faits, Paul, au-delà de ça, la rencontre la plus importante et de loin que Justin Trudeau avait aujourd'hui à Washington cet après-midi, c'était avec Nancy Pelosi. C'était pas avec Donald Trump, c'était avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce que l'objet premier de ce voyage-là de M. Trudeau, c'est d'essayer de mousser, de pousser de l'avant le processus de ratification du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Or, où est-ce qu'on est dans ce processus-là? Du côté mexicain, le Congrès mexicain vient de le ratifier, en fait. Le Sénat mexicain l'a passé hier 114-4. Du côté du Canada, les deux principaux partis, celui de M. Trudeau, évidemment, même celui de M. Scheer, l'opposition officielle, donc les deux partis principaux à la Chambre des communes, appuient l'accord, prévoient voter pour le ratifier. Et aux États-Unis, c'est quoi la donne? Les milieux d'affaires, très largement, appuient l'accord. Même les plus importants syndicats aux États-Unis appuient plusieurs des modifications qui ont été apportées, notamment dans le secteur automobile. La Maison-Blanche appuie l'accord. Le Sénat semble prêt à appuyer l'accord. Et il y a une personne qui bloque tout présentement, et c'est Mme Pelosi. Et le pire, Paul, c'est qu'il pourrait y avoir assez de votes dans l'ensemble de la Chambre des représentants aux États-Unis, assez de démocrates et assez de républicains, ensemble, qui auraient une majorité pour voter en faveur de la ratification. Le problème, c'est que la présidente de la Chambre a le pouvoir unilatéral de prévenir même la tenue d'un vote, de bloquer la tenue d'un vote, et c'est exactement ce que Mme Pelosi fait. Et il faut réaliser, Paul, ce que les démocrates demandent, ce que Mme Pelosi demande. Elle a demandé qu'on retourne à la table de négociation, qu'on rouvre l'accord, le même accord, écoute, que le gouvernement mexicain vient de ratifier. Bonne chance. Donc, ce que les membres de l'administration Trump commencent à dire en privé, je te le disais hier, je te le redis aujourd'hui, c'est que si on n'a pas ratifié ça au niveau du Congrès américain d'ici la pause de l'été aux États-Unis, la pause du Congrès, c'est en août. Il y a des bonnes chances que ça soit carrément mort au feuilleton.
Imagine.
Les prochaines semaines vont être critiques.
Rapidement, un candidat pour le Sénat qui avait fait scandale il y a 2 ans en Alabama est de retour.
On s'en était tellement parlé. Tu vas te rappeler du nom, Roy Moore. Le type qui avait réussi l'exploit absolument incroyable d'être un républicain qui perd une course sénatoriale en Alabama. Là, c'est un petit peu comme un libéral qui perd une course à Westmount. Après avoir été aux prises avec des accusations de pédophilie, il aurait approché des filles de 14, de 16 ans, alors que lui avait essentiellement mon âge, alors qu'il était dans la trentaine. Eh bien, devine quoi? Perdre une fois, c'était pas assez pour lui. Il a annoncé qu'il allait être de retour en 2020. Et donc, le démocrate qui avait gagné de façon absolument miraculeuse se dit: j'ai peut-être une chance de m'accrocher si les républicains sont assez fous pour choisir encore ce type-là comme candidat.
Ah, c'est incroyable. Merci, Raphaël.